impatriable, des utopies qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la France, la Fédération des radios associatives du nord de la France.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Parlons France, le nouveau rendez-vous mensuel de la France, la Fédé des radios associatives du Nord-Pas-de-Calais. Parlons France, d'un mot, c'est un invité en plateau, un grand témoin qui a réagi à des reportages de terrain autour d'une question de société traitée sous l'angle de la proximité. Pour ce premier numéro, on va parler agriculture biologique. Malgré un doublement en 5 ans du nombre des producteurs bio en région, malgré un accroissement significatif, tant des surfaces que du nombre de fermes, la bio, comme on appelle l'agriculture biologique, ne représente aujourd'hui que 1% des exploitations du Nord-Pas-de-Calais. C'est loin, très loin des objectifs du Grenelle de l'environnement. Et la région est loin, très loin, dans les profondeurs du classement des régions les plus bio de France, 18e sur 22. Pour répondre aux enjeux à la fois sanitaires, environnementaux et économiques, le GABNOR, le groupement des agriculteurs biologiques du Nord-Pas-de-Calais, estime qu'il faudrait 20% de la surface agricole utile en bio. On est aujourd'hui à 1%, autant dire qu'on est loin du compte, mais pour le GABNOR, 20% en bio, c'est non seulement souhaitable, mais possible. Notre invité partage-t-il ce constat et ses objectifs? Comment voit-il le développement de la bio en région, tant du côté des producteurs que des consommateurs? Le Nord doit-il voir la vie en bio? Bonjour Jean-Bernard Bayard.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs.
Jean-Bernard Bayard, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, réélu pour 6 ans à la tête de cette institution en mars 2013. Vous êtes exploitant en polyculture à Isel-les-Équerchins. Et dernière précision d'importance de cette rapide présentation, vous êtes membre de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
Alors Jean-Bernard Bayard, alors il y a une répartition plutôt inégale de la bio sur le territoire régional, avec l'Avesnois qui concentre un quart des producteurs de la région, essentiellement des élevages laitiers. Dans les quelques 300 fermes de bio de la région, c'est le maraîchage et l'élevage laitier qui sont le plus représentés, l'élevage occupant à lui seul les trois quarts des surfaces certifiées bio. Des grandes cultures qui accusent un retard de conversion important par rapport aux autres productions régionales. Alors comment finiriez-vous de brosser ce très rapide portrait de la bio en Nord-Pas-de-Calais ?
Enfin, j'en sais rien. Sincèrement, je n'en sais rien. Comment je finirais de... D'accord. Comment je finirais de brosser cette situation ? Bon, je pense que vous avez effectivement décrit la situation au niveau de la production sur notre région. Il est vrai que les choses avaient démarré à une certaine époque et puis ça a fortement ralenti derrière. Il faut peut-être regarder aux explications et aux raisons pour lesquelles cela a ralenti. Il faut regarder aussi pourquoi aujourd'hui, le secteur laitier, on a une production bio qui est relativement plus développée que sur les cultures, comme vous l'évoquiez. Là aussi, il y a des raisons. Alors je pense que sur l'historique, je crois que dans la région, ce qui n'a pas été le cas tout partout, on a eu une réflexion au niveau de l'agriculture bio en disant « il y a un producteur bio et en face, il y a directement un consommateur ». Et aujourd'hui, au niveau de cette situation, au niveau de la production laitière, c'est qu'on a fait une démarche globale avec les industriels du lait au niveau de la conversion pour la production bio et qui fait que le lait est traité d'une certaine manière dans un schéma industriel, ce qui veut dire que pour aborder la question de la production bio, ce n'est pas une exclusivité qui doit se faire au niveau des circuits courts ou de la vente directe. C'est une approche globale avec une réflexion qui doit être constituée en filière. Quand vous avez une réflexion en filière, vous pouvez effectivement aborder un schéma peut-être plus long, un schéma en circuit court, et derrière effectivement aussi cette vente à l'exploitation, cette vente directe.
Jean-Bernard Bayard, voilà pour un premier état des lieux de la bio en Nord-Pas-de-Calais. On rentre dans le vif du sujet avec un premier témoignage. Loin de la ferme des 1000 vaches, c'est la ferme des 13 vaches de Hugues de Waal qui exploite près de Douai. En plus, ce sont des vaches vachement bio qui produisent du lait notamment. Pour des
normalement,
fromages,
une vache, ça produit du lait, oui, vous avez raison.
Pour des fromages typiquement régionaux, Jérôme Bailly y est allé promener le museau de son micro.
Les fruits et légumes bio sont devenus monnaie courante, mais qu'en est-il du fromage bio ? Hugues de Waal est producteur de fromage bio à Villers-sur-Têtre, entre Douai et Cambrai. Rencontre avec lui et ses vaches bio.
Là, ça correspond à ce que les vaches elles soient nourries en bio, donc c'est-à-dire que l'herbe qu'elles pâturent en ce moment, ça soit de l'herbe bio. En hiver, du foin bio. Donc le cahier des charges, là, ben, c'est simple, c'est aucun traitement, pas d'engrais chimiques, que de l'engrais du compost. Quand je parle de traitement, ben, c'est les insecticides contre les insectes, les fongicides contre les maladies. Donc tout ça, c'est interdit, quoi. Si on veut traiter, c'est avec des mélanges à base de plantes. Moi, les vaches, pareil, j'ai pas le droit de les traiter avec des antibiotiques. Ben, il faut prévoir, quoi. Il faut déjà avoir des races plus résistantes. Il faut avoir une nourriture plus équilibrée. Comme ça, on a moins de soucis. On a moins besoin de guérir.
Hugues de Waal vend sa production en circuit court, uniquement à la ferme ou sur les marchés du samedi et dimanche matin.
Donc dans mes produits, les fromages affinés, les fromages blancs, le beurre, la crème fraîche, le lait, les tartes, tout ça produit sur l'exploitation à 13 euros le kilo pour un fromage affiné. À Auchan, il n'y a pas beaucoup de fromages à 13 euros le kilo, si ce n'est le camembert industriel produit à la chaîne, quoi.
Produire des fromages bio n'est pas de tout repos pour cet agriculteur, avec environ 70 heures de travail par semaine, avec des aides quasi inexistantes.
Il n'y a pas beaucoup d'aides pour le bio, en fait, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a des régions comme la Vendée, beaucoup de régions plus dynamiques, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, on est une terre de grande culture. D'ailleurs, on est un des derniers départements de France au classement du bio, mais c'est pas sans raison, quoi. Il n'y a pas d'aide, donc il n'y a pas de bio, quoi. Parce que la demande, elle est là, hein.
Jérôme Bailly.
Alors Jean-Bernard Bayard, Hugues de Waal dit qu'il n'y a pas d'aide en Nord-Pas-de-Calais. Vrai ou faux ?
Non, mais il y a un accompagnement au niveau du bio qui a été défini au niveau national, qui se trouve renforcé ici dans la loi d'avenir. Ensuite, il y a des démarches par un certain nombre de collectivités. Moi, vous dire qu'il n'y a pas d'aide du tout, je dis non. Par contre, je suis mal placé pour vous dire la comparaison avec la Vendée ou avec la Charente-Poitou ou une autre région. Ça, je ne sais pas faire la part des choses au niveau des aides avec les collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire. Voilà. Ça, dire qu'il n'y a pas d'aide du tout. Alors, qui considère que les aides sont insuffisantes, ça, c'est possible. Et je ferai une remarque globale qui vaut pour l'agriculture conventionnelle comme pour le bio. Je crois qu'on est dans une démarche qui a été définie au niveau de l'Europe d'un accompagnement au niveau des productions agricoles, et ce, au niveau des productions agricoles. Et que les démarches, qu'elles soient au conventionnel ou au bio, la démarche, elle était globale. Ensuite, il y a des accompagnements particuliers concernant le bio. Voilà.
Alors pourquoi Hugues de Waal dit que non, qu'il n'y a pas d'aide ? Est-ce qu'il y aurait une méconnaissance aussi sur le terrain ?
Ah, il peut y avoir une méconnaissance. Ça, j'en suis convaincu. Je crois que quand vous dites qu'il n'y a pas d'aide, je sais qu'il y a des démarches qui sont faites, y compris par des collectivités locales qui aident au niveau du bio. Alors qu'il y a un défaut d'information, je crois qu'on a tous une responsabilité en la matière, où on vous avait parlé tout à l'heure du Gamme Nord ou autre, comme pour la Chambre d'agriculture. Je crois qu'il y a peut-être un certain nombre de réflexions à avoir sur le sujet en termes d'information. Mais globalement, au niveau des informations, celles-ci sont véhiculées par différents circuits, et y compris dans les circuits pour apporter et conseiller concernant, pour apporter un soutien à l'agriculture bio, vous avez le conseil régional, hein, qui informe également directement les agriculteurs. Donc nous avons à la Chambre d'agriculture un relais qui existe, ça existe à travers un certain nombre de structures qui s'intéressent au bio, mais également les collectivités locales, comme les collectivités territoriales, accompagnent en termes d'information.
Et vous, en tant que chambre d'agriculture, justement, comment vous véhiculez l'information envers les producteurs quant aux aides, justement ?
La formation, d'abord, bon, c'est savoir si les gens sont intéressés, de dire, vous faites une démarche donc errante en contact avec un conseiller bio, hein, qui leur apporte un certain nombre d'informations. Ça, c'est quand vous êtes déjà dans la phase à laquelle vous êtes intéressé. Autrement, au niveau des messages qui sont véhiculés, il y a un certain nombre de messages qui sont véhiculés par les GEDA, hein, donc qui expliquent qu'on peut avoir un certain nombre de soutiens, mais également à travers des brochures de la Chambre d'agriculture où on met les numéros de téléphone, les interlocuteurs possibles. Il suffit que les gens prennent les rendez-vous et qu'ils aient les contacts aussi.
Je vous propose maintenant de partir avec Jean-Philippe Planque dans le Cambrésis à la rencontre non plus d'un petit mais d'un gros exploitant.
Tout à fait, Marjolaine. Je suis allé à la rencontre de deux agriculteurs, notamment Sébastien Lemoine, polyculteur à Gouzeaucourt. Il s'est converti à la bio il y a 4 ans et aujourd'hui, c'est un homme heureux.
Aujourd'hui, mon grand plaisir, c'est d'aller dans mes champs de légumes et de croquer une carotte, par exemple, sans la laver, sans rien, quoi. Chose que je n'aurais pas fait en conventionnel. Au contraire, bien des conventionnels ont parfois des légumes plein champ. Ils mangent les légumes de leur potager et pas ceux cultivés dans leur champ. Donc, je pense qu'il y a un non-sens quelque part. J'ai toujours une petite phrase de Saint-Exupéry en tête, c'est « on ne prend pas la terre de ses parents, on emprunte celle de ses enfants ». Quand j'ai entendu la première fois cette phrase, ça m'a interpellé. Je sais pas, ça me revient souvent en tête et je me suis dit, c'est vrai, j'ai travaillé un petit peu dans le monde de la phyto. Je me suis installé en 96, donc j'étais longtemps dans le monde conventionnel sans être un pur intensif, loin de là. Et je me suis dit, zut, qu'est-ce que je vais laisser à mes descendants? Quand je vois aussi autour de moi et plus généralement des gens qui ont de plus en plus d'allergies ou d'intolérance au gluten ou au au lait, je me suis dit, est-ce que c'est ça, nourrir les gens, faire de l'intensif et de produire à tout bout de champ sans savoir la finalité de nos produits, ses réactions sur l'homme aussi. Et à l'âge de 30 ans, on m'a décelé une maladie. Je crois que c'est une accumulation de choses qui ont fait que je suis passé au bio. On m'a décelé une sclérose en plaques, ce qui n'a pas forcément de cause à effet avec l'alimentation, mais je me suis dit, aujourd'hui, si je veux nourrir les gens, j'ai envie de le faire de façon plus respectueuse de l'environnement et plus respectueuse de l'humain aussi. Donc, c'est un cheminement que je n'ai pas eu seul, hein, que j'ai eu avec des collègues, et on avait envie, franchement, de produire autrement, quoi.
Sébastien Lemoine fait en effet partie de la CUMA de Villers-Plouich, qui est une coopérative d'utilisation du matériel agricole, ce qui lui a permis d'avoir avec d'autres agriculteurs une réflexion sur le passage en agriculture biologique.
On s'est posé la question 2-3 ans avant de franchir le cap, quoi, hein. Et pendant ces 2-3 ans-là, on a fait des formations sur la bio, on a été voir beaucoup d'agriculteurs bio, il y en a qui sont venus, on a fait des tours de plaine, et puis voilà, pour nous rassurer, parce que de passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, c'est quand même un grand cap, quoi, hein. On change complètement de métier, quoi. On a réappris de l'agronomie, quoi. J'ai redécouvert mon métier. Et je pense que si je n'avais pas pris ce cap bio, je ne sais pas si j'aurais continué franchement l'agriculture conventionnelle. J'étais un petit peu découragé du métier. Non, aujourd'hui, au contraire, de redécouvrir un métier qui me plaît énormément en agriculture biologique, non, ça ne me décourage pas du tout. Même si parfois la charge de boulot est bien plus élevée, mais pas découragé, loin de là.
Bon, ici, on est en changement. On vient d'arracher les oignons, là. Enfin, ils sont partis parce que les oignons, on n'a pas de stockage long terme pour l'instant. Donc des oignons, ça se conserve 2-3 jours, hein. Ah oui. En tas. Sinon, il faut que ça soit refroidi et séché très vite. Donc on a encore un petit 600 kilos. Bon, ça va être pour, je ne dis pas pour l'autoconsommation, ça paraît énorme, mais pour les collègues et pour les gens qui nous en demandent, quoi. Donc ici, c'est plus... on va bientôt le retransformer pour le stockage des betteraves rouges et le triage et le déterrage des betteraves rouges. Pour l'instant, on n'est pas trop en filière courte. On y réfléchit. Pour l'instant, on est sur du long. Donc, on travaille principalement sur les oignons, betteraves rouges, carottes, avec une coopérative qui s'appelle Nora Bio. Donc, voilà, on travaille avec eux, qui, eux, revendent à des grossistes ou directement des GMS.
Par GMS, il faut comprendre grande et moyenne surface. Mais produire bio coûte cher. À commencer par les investissements dans du matériel spécifique,
Les premiers investissements ont été faits sur du désherbage mécanique de céréales, hein, c'était hercétril ou rotative. Donc là, l'investissement sur des cultures simples type céréales, il n'y a pas un investissement énorme. On a acheté une bineuse aussi. Les gros investissements se font sur les légumes où on est parti de zéro, donc c'est achat de semoirs, de bineuses spécifiques. Donc, c'est un cumul d'investissements qui est assez élevé, quoi. Alors, l'Europe, l'État et la région nous aident pas mal par des subventions, heureusement, mais c'est des investissements qui sont c'est vrai, assez lourd. Ouais.
Un investissement en matériel estimé à près de 200 000 euros. Thierry Baillet, agriculteur et président de la CUMA Laverlossoise, qui expérimente actuellement l'agriculture biologique, souligne d'autres coûts.
Bon, la partie technique à bien savoir maîtriser, mais aussi la complexité de gérer la main-d'œuvre, que ce soit le besoin de main-d'œuvre, gérer aussi la main-d'œuvre, parce que c'est gérer beaucoup de personnel. Et après, de voir que la fluctuation des rendements. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup moins de sécurité en bio qu'en conventionnel. On peut avoir des rendements qui varient plus facilement parce qu'on n'a aucun moyen d'arrêter certaines maladies ou certains ravageurs qui pourraient détruire la culture. Donc ça pourrait être un frein si on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, l'équilibre économique ne s'y retrouve pas, quoi.
On n'amortit pas ça en un an, loin de là, mais c'est vrai que parfois, et d'autres agriculteurs conventionnels dans la CUMA, on se disent, ils ont un petit peu peur, ils nous posent des questions, ils se disent, est-ce que vous allez vous en sortir, quoi. Oui, on a aussi des productions, une rentabilité sur les productions qui font, de toute façon, on part pas comme ça, la tête dans le guidon à l'aventure, quoi. Tout est calculé, on se base sur des références d'agriculteurs autour de nous, quoi. Maintenant, il est sûr qu'on n'a pas trop le droit de se planter. Mais on n'a pas envie de faire marche arrière. De toute façon, je pense qu'on a commencé le bio, et c'est pour ça que le conventionnel, on a envie de passer 100% bio. Moi, franchement, quand je repars dans mes champs conventionnels, ça ne me passionne plus du tout, quoi. J'ai pas de goût à passer le pulvé, à m'intoxiquer, ça me plaît vraiment pas, quoi. J'y vais vraiment à contre-cœur. J'y vais par obligation, mais j'ai hâte que toutes mes terres soient en bio. Ouais.
Jean-Philippe Planck.
Ça vous arrive, Jean-Bernard Barrière, de croquer une de vos carottes sans la laver ?
Écoutez, jusqu'à présent, je ne fais pas de carottes.
Pardon, jusqu'à présent.
Ou un de vos légumes.
Non, mais d'abord, oui, de croquer des légumes comme ça, directement, les frottant, oui. Mais moi, je frotte quand même, parce que la terre, jusqu'à présent, je ne sais pas la digérer.
Le plan national Ambition Bio 2017 préconise la mise en réseau des exploitants. On vient d'entendre un témoignage où l'agriculture biologique a été intégrée dans une CUMA. Est-ce que toutes les CUMA, à votre sens, sont dans les mêmes dispositions d'esprit ici, en région ?
Non, moi je pense que d'une manière globale, il faut laisser l'initiative aux uns et aux autres. Et cette démarche qui est sur les deux exemples donnés concernant les CUMA, pour moi, je considère que c'est normal. Dans la CUMA, il y a des gens qui portent un projet, donc ils l'expliquent à leurs collègues. On va prendre un exemple, allez, clairement. Vous avez une CUMA avec 20 personnes, hein, il peut en avoir une vingtaine. Si vous en avez 5 ou 10 qui sont sur un projet, ils peuvent le développer à l'interne de la CUMA, hein, au niveau de l'achat du matériel. Donc moi, je considère que c'est une excellente initiative. Par contre, à dire que toutes les CUMA sont dans la même démarche, la réponse, elle est claire, c'est non. Il y a des CUMA qui sont dans d'autres démarches concernant un certain nombre d'outils de mécanisation concernant l'agriculture, y compris d'accompagnement concernant l'élevage. Donc, voilà, c'est des initiatives qui sont totalement heureuses, totalement favorables à ça, oui, aucun problème. Alors ce que je voudrais faire comme remarque par rapport à vos propos, c'est que vous nous dites que les agriculteurs en bio, on les incite à aller en réseau. Nous, d'une manière globale, on incite l'ensemble des exploitants agricoles à fonctionner en réseau. Je crois que l'expérience de l'un enrichit l'autre. Et si on peut avoir un fonctionnement comme ça sur l'ensemble des productions, et quel que soit le mode de production, on ne peut enrichir que la collectivité en la matière. Et je crois que c'est une excellente démarche. D'ailleurs, elle est initiée depuis des générations, hein, c'est pas nouveau dans le monde agricole, effectivement, de fonctionner en réseau.
Jean-Bernard Baillard est notre invité aujourd'hui dans Parlons Franf.
J'allume j'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Jean-Bernard Bayard, je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. On parle agriculture biologique dans ce premier numéro de Parlons Franf. Causons maintenant circuit court, si vous le voulez bien. Une augmentation de la production agricole en mode bio peut-elle répondre à un marché local, favorisant ainsi ces fameux circuits courts de distribution? C'est ce que a été cherché à savoir... Hervé Dujardin.
Oui, et c'est dans le Douaisis que j'ai mené ma petite enquête en allant à la rencontre de Vincent Beaumont, gérant de supermarché bio, et en me rendant également à la cantine municipale de Flers-en-Escrobieux. Cette cantine a engagé sa mutation vers la fabrication de repas favorisant les productions bio et locales, une démarche globale pas facile à mettre en œuvre quand parfois les plus jeunes ont même perdu le rythme des saisons. Chantal De Wilde est intendante à cette cantine.
Nous faisons attention à la saisonnalité. Nous travaillons aussi avec des petits producteurs de flers, genre les fraises, le pain. Nous prenons du pain bio tous les jours à la boulangerie Le Fournil.
Compliqué de trouver à se fournir sur un circuit court?
Pas très facile, oui, c'est difficile. Parce qu'il y a très peu de producteurs par ici.
Ça revient plus cher que de travailler comme ça et avec le bio et en proximité?
Le bio proximité, oui, légèrement plus cher, faut le reconnaître. Mais s'il y a la qualité après, je suis d'accord, moi.
Le coût d'un repas ici, c'est quoi?
Chaque personne paie ici 2,90 par enfant. Puis après, je pense que la mairie met une participation.
Quand ici, la volonté a été prise de favoriser le bio et les circuits courts, ça a changé beaucoup de choses dans votre façon de travailler, vous?
Moi, personnellement, non, mais mon chef, oui, parce que en fonction des quantités et puis du respect des légumes et des fruits, monsieur. Voilà.
Alain Fiquet est élu municipal à Flers-en-Escrobieux. Il est également président de l'association Union écologique de Flers, association à l'origine de la conversion de la cantine vers le local et le bio.
Au niveau de la restauration collective bio et conventionnelle locale, il y a un diagnostic qui a été fait il y a 2-3 ans pour estimer un petit peu le nombre de repas qui étaient servis dans les collectivités au niveau du Douaisis. Il y a à peu près 50 millions de repas qui sont servis, toutes collectivités confondues, restaurants, hôpitaux, collèges, lycées. Et sur cette base de diagnostic, il y a un potentiel de repas qu'on puisse fournir en producteurs locaux, bio quand les conditions seront réunies, parce qu'on n'en est pas encore là. Il y a un potentiel économique et de consommation locale. À Flers, on est un petit peu les pionniers de la restauration collective en bio, mais d'autres s'y mettent maintenant. Il y a Lambre, il y a Dechy, il y a la ville de Douai en train d'y réfléchir, donc c'est en train de bouger un peu partout. Il y a un forum ouvert qui a été organisé au mois de juin avec tous les parties prenantes économiques, associatifs, collectivités, élus, pour faire un diagnostic. Comment développer le maraîchage et le bio dans le Douaisis pour récupérer progressivement une autonomie alimentaire locale. Entre 40 et 60% des produits bio consommés en France actuellement, là je parle d'une manière plus hexagonale, sont importés. Et la demande explose. Donc il y a un paradoxe. La démarche de mettre en place du bio sur le plan local, ça peut que se faire que progressivement. Il y a une profession agricole qui a été orientée pour des raisons historiques dans une direction économique qui a fait son temps. Mais maintenant, on en pèse aussi les conséquences environnementales qu'on ne les intégrait pas au départ. Donc ne pas jeter la pierre au monde agricole, mais leur expliquer qu'il y a un changement et les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Ils exigent une nourriture qualitative de proximité pour leurs enfants. Ça, c'est incontournable maintenant. Il faut d'abord s'appuyer sur ces critères-là.
Un repas bio pour les enfants à midi, à la cantine, mais quid du goûter de 4 heures? Solution, allait l'acheter au supermarché bio, qui à Douai a ouvert début septembre. Vincent Beaumont en est le gérant et il marche dans les pas de son père et de son frère, gérant de supermarché bio à Dunkerque et Béthune. Ces nouveaux muliers du bio ne craignent pas la concurrence de la distribution des grandes enseignes et misent sur de nouvelles habitudes d'achat de la clientèle.
On remarque dans les études que 50% du bio est distribué par les magasins hypermarchés, supermarchés, Match, Auchan. Et les 50 autres %, ce sont les magasins spécialisés, des gens qui ont un frein à aller dans les grandes surfaces, qui ont un a priori et qui ont besoin de davantage de conseils, de prendre leur temps dans le magasin, d'avoir des animations, des dégustations et du conseil. C'est privilégier les circuits courts, c'est privilégier les producteurs, les agriculteurs locaux, régionaux. Par exemple, sur le rayon fruits et légumes, 95% à peu près des produits viennent de France. On travaille avec un grossiste qui s'appelle Forever, qui est basé à Arras et qui privilégie tous les agriculteurs, les producteurs, les maraîchers régionaux. Il y a de plus en plus de maraîchers, de producteurs qui passent de la filière traditionnelle à la filière bio. C'est que je pense qu'il y a eu un déclic, une prise de conscience, et que clairement c'est l'avenir. Après, dans le Nord-Pas-de-Calais, on est clairement en retard par rapport à d'autres régions, notamment du sud, du sud-ouest. Ça doit être un peu par rapport aux cultures qu'on propose, mais moins de 1% des terres agricoles dans le Nord-Pas-de-Calais sont bio, alors que dans d'autres régions, ça peut atteindre les 12-13%, donc il y a vraiment une croissance à aller chercher dans le Nord-Pas-de-Calais autour du bio.
Ça coûte plus cher.
Le bio a forcément un coût plus cher, parce que ça coûte plus cher de produire du bio, donc derrière ça se retrouve forcément un petit peu dans le prix. Après, nous on essaye de proposer un bio accessible à tous. Au bout du troisième magasin, on a forcément des économies d'échelle et on a des conditions favorables d'achat. Et on essaye vraiment de le mettre dans le prix, de faire du volume pour proposer un bio pour tous, un bio accessible pour tous. J'embauche 3 personnes qui étaient au chômage, donc voilà, on participe aussi à l'économie française à notre toute petite échelle. Après, j'espère qu'on confirmera le bon démarrage du premier mois et que effectivement, je compte bien gagner ma vie avec le magasin, mais toujours en ayant l'idée en tête de offrir un bio accessible à tous en proposant les prix les plus bas possibles aux consommateurs.
Hervé Dujardin.
Des collectivités désireuses de développer le bio et prêtes à favoriser le marché local, des circuits de distribution déjà sur le marché, Jean-Bernard Bayard. N'avez-vous pas l'impression que le monde agricole est attendu de pied ferme et comment la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais que vous présidez peut-elle être un partenaire de ces différents acteurs ?
Bien, alors attendu de pied ferme, j'en sais rien.
Ah, c'est l'impression qu'on a.
Non, mais j'entends. Mais ça, c'est une expression au regard de la situation de l'agriculture. Ce que je voulais vous dire tout de suite, c'est que quand j'entends qu'il y a une difficulté à se fournir en circuit court, que la région Nord-Pas-de-Calais est une région leader en circuit court.
Leader en circuit court sur les produits bio ? Non, certainement pas.
Non, vous avez parlé de circuit court. Donc derrière, vous avez fait différentiel avec production bio. Alors, en production bio, non, puisque vous l'avez vous-même évoqué et vos interlocuteurs l'ont évoqué en termes de surface, nous sommes moins de 1%, puisqu'on est à 0,9% surface concernant la production bio. Mais en l'occurrence, on est quand même leader en circuit court. Donc ça, je tenais à le souligner. Derrière ça, que fait la Chambre d'agriculture ? Parce qu'apparemment, elle ne fait rien. Donc, je vous dire qu'on continue sur l'ensemble des informations, les mises en réseau également concernant les circuits courts. Nous avons créé un site internet qui met en relation les acheteurs et les fournisseurs, tant en production conventionnelle qu'en bio. Voilà, nous sommes dans un certain nombre de démarches, justement, pour proposer à quelqu'un qui veut du bio, une collectivité qui veut du bio, elle va sur le site, elle regarde, effectivement, elle peut trouver des producteurs bio. Dans ceux que vous avez évoqués tout à l'heure, sur lesquels vous avez...
On a l'impression qu'il y a plus de demandes que d'offres.
Ça, j'en sais rien.
Ah, mais nous, c'est le sentiment que l'on a reçu au cours de différentes rencontres.
Bah oui, parce que vous avez contacté des gens qui sont en production bio. Moi, je sais qu'au niveau des collectivités, il y a eu, parce qu'on travaille aussi avec les collectivités, la Chambre d'agriculture travaille avec des collectivités. Alors, peut-être pas précisément celle de Flers, c'était pas Flers.
C'est la CAD, là, en
l'occurrence. Oui, la CAD, oui, Christian Poiré, je connais bien. Attendez, on a signé des conventions et tout, et on travaille avec eux régulièrement. Donc, sur cette production bio, est-ce qu'il y a plus de demandes ? Il y a une demande, oui, puisqu'on est obligé d'importer. Mais si on importe des produits, c'est parce que, c'est effectivement, nous n'avons pas notre production chez nous. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on s'explique pourquoi on n'a pas la production en face de chez nous. Est-ce qu'il y a des efforts à faire en la matière ? Oui, il y a des efforts à faire en la matière.
Alors, j'ai peut-être un élément de réponse. On vient d'évoquer la CADE, Communauté d'agglomération du Douaisis. Christian Poiret, son président, a fait installer Amazon sur des terres ô combien fertiles. Est-ce que les enjeux liés au foncier, finalement, peuvent expliquer que c'est compliqué de développer le bio en région Nord-Pas-de-Calais ? C'est un élément de réponse ou pas ?
Non, c'est un élément de réponse, je vais vous dire, qui n'est que partiel. Est-ce que, où il y avait l'emplacement d'Amazon, est-ce qu'on aurait fait du bio ? Moi, je ne sais pas. Voilà. Ce que je veux dire concernant la consommation de foncier, que c'est vrai, on peut toujours faire de l'économie. Mais quand en face de la consommation de foncier, il y a des réponses au regard de l'emploi, notre responsabilité collective est d'accompagner le développement de nos territoires. Notre responsabilité collective est cette possibilité également de donner du travail à un certain nombre de situations de détresse qui existe également dans notre région. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas la réponse à dire Christian Poiret, il n'aurait pas dû le faire parce qu'à la place d'Amazon, il y aurait eu du bio. Non, ça, j'en sais rien. Il a développé son activité économique sur son territoire. Par contre, hein, sur la conception des zones d'activité, là, il y a des efforts à faire. Sur des conceptions de bâtiments, par exemple, parce que c'était une discussion que j'avais eue avec Christian Poiret, de dire on consomme moins de foncier sur le fait de réinjecter l'eau dans le sol et ainsi de suite. Oui, là aussi, il y a des efforts à faire. Et là aussi, il y a une responsabilité des pouvoirs publics. Là aussi, il y a peut-être une responsabilité du côté de la DREAL au regard de ce qu'ils imposent aux concepteurs de zones d'activité. Voilà.
On va aborder un autre volet du bio, Jean-Bernard Bayard, celui des consommateurs. On écoute l'une de ces consommatrices bio.
Je suis bio, je mange des graines germées, paraît que c'est bon pour la santé, des oligo-éléments, de l'or, du cuivre et de l'argent. Je suis bio, je bois du thé vert, paraît que c'est bon pour les artères. Je fais du vélo régulièrement, on boit de vin saine par tous les temps. Mais quand je descends chez ma grand-mère, à Marvejol en Lozère, je sens mon côté animal. Les pommes de terre santé à la graisse d'oie, et les tranches de pâté que je mange avec les doigts, le poudin aux oignons et les tripes aux oignons, et le bœuf bourguignon, les omelettes au lardon et la crème de marron et le petit mouton. C'est bon. Mais quand je remonte à la capitale, je me fais un pâté végétal, un petit drainage lymphatique. Je reprends mes cours de gymnastique. Je suis bio, je ne mange pas trop vite. Pareil que c'est bon.
Parlons Franf, dernière partie de notre premier numéro consacré à la bio. Jean-Bernard Bayard, je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. On reproche souvent aux consommateurs de ne pas être assez acteurs de leur alimentation. Plus qu'un acteur, nous, on a rencontré un activiste de la consommation. Ça se passe dans le centre-ville de Lille, devant la CAF, la caisse d'allocation familiale.
Il y a environ 2 ans, il y a eu quelques messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux, sur les forums, pour appeler à commencer la guérilla potagère à Lille. Et par exemple, sur le site de la CAF, il y a quelqu'un qui avait publié une photo comme quoi c'était un site parfait pour commencer. Et il y a des patates qui ont été plantées dans les semaines qui ont suivi. Et cette année, c'est assez rigolo parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux légumes de planter. Et il y a quand même des patates qui ont repoussé toutes seules. Ça commence à perdurer un peu. Pour moi, c'est surtout une démarche politique. Plutôt que de ne rien faire ou d'attendre que le maire le fasse pour nous, si on trouve un endroit à l'abandon, on va nous-mêmes planter ce qu'on veut voir pousser. Il y a aussi la revendication de la gratuité, le partage. où les gens peuvent se servir. On va dire, il n'y a aucune règle, il n'y a pas de barrière.
You noble diggers all, stand up now, stand up now.
C'est une alternative au système de nourriture industrielle, de malbouffe. On voit ce qu'on fait pousser, on sait ce qu'on mange. Une alternative au système agricole, où on va tout faire venir, surtout dans le Nord, on va tout faire venir de quelques grandes exploitations, alors que là, ça va être plusieurs lieux proches qui vont approvisionner les gens à côté.
Stand up now.
Il y en a qui vont s'intéresser vraiment à l'aspect jardinage, à réapproprier un lieu précis, et d'autres personnes qui vont avoir une vision globale de la chose, qui vont vouloir révolutionner, que ce soit au niveau sur l'agriculture biologique, sur la manière dont fonctionne l'urbanisme, l'économie, qui vont vouloir changer tout un système, et ça en fait partie. Et la guerre potagère, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau, et il faut que les gens s'en emparent.
Stand up now,
sur l'ère des diggers, ces paysans révolutionnaires de l'Angleterre du XVIIIe siècle dont se réclament les collectifs contemporains de Green Guérilla, c'était Ambroise Lesage, jeune guérillot lillois de la patate à la CAF. Jean-Bernard Bayard, comment vous voyez à la Chambre d'agriculture ce type de mouvement dénonçant notre mode de vie non durable, comme des activistes utopiquement doudingues qui font doucement rigoler, ou comme des représentants d'une possible alternative à expérimenter et à considérer avec sérieux?
Enfin, moi je vais vous répondre. Je pense que nous avons une responsabilité aussi là collective au regard de l'alimentation. Hein, et je dirais que c'est notre première mission en tant qu'agriculteur. Alors, ensuite, dans l'interview, il s'est bien positionné d'abord sur une démarche politique, c'est ce qu'il a dit, hein, qui concernait l'alimentation comme d'autres sujets. Donc je pense que sa démarche, elle est d'abord globale, au regard d'idées qu'il peut avoir, que je respecte. Moi, je pense que dans la vie, le fait d'avoir différentes idées, différents schémas, c'est ce qui permet la confrontation en termes d'idées, ce qui permet d'avancer. Je parle de confrontation, c'est bien en termes d'idées, hein, c'est pas autre chose. Et je crois que sur ce sujet-là, moi, je dis que l'agriculture, et vous savez, enfin, nous, on se connaît pas, mais certains qui connaissent mon credo en la matière, c'est que l'agriculture, elle est plurielle. Et l'agriculture, elle est plurielle dans ses productions, mais elle est plurielle dans ses modes de production, dans ses process de production. Elle est plurielle dans ses schémas de distribution. Et quand on intègre ça, on se dit qu'il y a une place pour les uns et pour les autres. Et je crois que notre démarche aussi au niveau du monde agricole n'est plus celle des années 70. Je pense que au regard de l'agriculture, hein, on a des clichés qui ont été qui remontent à un certain nombre d'années. Alors je ne vais pas remonter au-delà parce que là on serait dans une autre approche qui rappelle peut-être plus du bio ou ceci ou cela, mais il y a eu des clichés de ce style. Moi, je peux vous dire, là, tout à l'heure, vous avez parlé des cumas. Je peux vous dire qu'en agriculture conventionnelle, puisque le matériel qui est utilisé pour l'agriculture bio est peut-être le meilleur, je n'en sais rien, mais en agriculture conventionnelle, on utilise du matériel qui est fait pour l'agriculture bio. Pourquoi ? Justement, parce qu'il y a quand même, dans la tête des paysans, ils ne sont pas tous des irresponsables, loin s'en faut, au contraire, je pense qu'ils collent assez fortement à l'évolution de notre monde et à la société, hein, il y a une volonté de faire mieux, et c'est pour ça qu'on est dans ce type de démarche. Alors maintenant, l'interview qu'on a entendue, moi je respecte ses idées, ce ne sont pas les miennes, mais je les respecte.
Jean-Bernard Bayard, vous avez déclaré qu'il faut aussi réhabituer le consommateur à cuisiner. Des actions existent, oui, pour l'y inciter. Direction Villeneuve-d'Ascq, autour d'une soupe.
C'est la soupe du panier.
Ouais.
On prend tous les produits du panier. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire la cuisine.
Et pour cause, ces réunions de rentrée pour l'atelier cuisine du centre social Centre-Ville de Villeneuve-d'Ascq, le premier des 9 centres sociaux du département à s'être impliqué dans BioCabas Accessible. Une opération impulsée en 2006 par le GAMNord, le groupement des agriculteurs bio du Nord et le Conseil Général. L'objectif, faciliter l'accès au bio aux familles à faible revenu. Mais ce n'est pas parce qu'on veut rendre le bio accessible que tout le monde en veut. Christine Janicki, animatrice au centre social.
C'est toujours difficile au début. Malgré qu'il y ait une réduction sur le panier, ça reste cher. Il faut reconnaître que c'est un budget. Financièrement, le panier revient aux familles qui prennent le panier chaque semaine à 6 euros. Ça reste quand même un budget sur le mois, hein. Effectivement, qu'on peut avoir des légumes moins chers. L'idée, c'était aussi de mettre à disposition un panier à moindre coût pour que les personnes qui sont comme tout le monde aient le droit, comme tout le monde, de choisir de manger des légumes bio s'ils en ont envie. Point. C'est aussi ça le travail de citoyenneté qu'on doit faire dans un centre social, il me semble.
Il y a aussi des habitudes alimentaires qui ne se changent pas juste avec des propos un peu impératifs. Dire aux gens, manger 5 fruits et légumes par jour, ça ne suffit pas.
Mathilde Roger-Mexme, animatrice accessibilité des produits biologiques au GAM Nord.
Il y a vraiment un travail à faire qui est vraiment profond et qui est aussi un peu de l'ordre de l'intime quoi, chez les gens. La nourriture, pour tout le monde, c'est quelque chose de très profondément culturel, donc ça a aussi des répercussions psychologiques. C'est des choses qui sont vraiment liées à beaucoup de choses, qui dépassent juste la simple question de la santé et qui dépassent aussi la simple question de l'argent.
Mesdames, la soupe.
Pour moi, c'est important de donner ce choix-là, de redécouvrir que faire la cuisine, c'est pas difficile. Le choix du bio, finalement, c'est des choix qui peuvent paraître insensés, coûteux, tout ce qu'on veut, mais pas forcément. Il faut le faire intelligemment. Bah, les légumes, c'est déjà un premier pas et je trouve que c'est pas mal. Allez, on se dépêche. Sinon, on va jamais manger. Hein. La soupe, elle va être froide. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas.
Hop. Moi, je prends tous les mois un sac Biocaba. Et puis ils sont très bons, ça n'a même pas le même goût que les légumes ordinaires là.
Moi je trouve que c'est bien pour la santé quoi, voilà, hein. Simplement. Hein.
C'est vrai que ça renvoyait toujours le bio, des aliments chers, c'est pas pour les gens modestes.
On apprend à aimer des légumes qu'on n'aimait pas avant. J'aimais pas trop les courgettes et tout, et maintenant j'en mange en fait.
À la maison, elle a du mal à manger les légumes. Et depuis que je prends les Biocaba, elle en mange.
On va plus cuisiner un légume avec le plat. Avant, j'aurais fait, on va dire, pâte steak haché. Là, je vais nécessairement faire plus un légume avec.
Maintenant que je me suis familiarisée avec, ici, au centre social, je vais plus facilement dans les magasins vers le bio qu'avant. Voilà.
Moi, comme je le prends au centre social, moi, je ne vois pas d'augmentation de budget. Mais par contre, si je l'achète en magasin, je vois que c'est plus cher. Mais ici, quand je prends vraiment, mon budget reste pareil. Et je mange bien.
Alors, du poireau, des fans de radis, de l'aubergine, de la pomme de terre, et puis... Vous voyez, pas de carottes en tous les cas. On a mis tout ce qu'on a trouvé. Ah, et de l'oignon.
Alors, les radis non plus, je ne les ai pas mis dans la soupe. On peut faire une soupe de radis, mais je n'ai pas mis les radis dans la soupe. Par contre, j'ai mis les fans de radis. Parce qu'on apprend aussi à ne rien jeter, à ne pas gaspiller, et que tout se mange. Après, il ne faut pas s'attendre non plus en un an à... Voilà, ça fait 7 ans. Hein. Et en 7 ans, on en arrive à une quarantaine de familles qui passent dans les ateliers chaque année. Au début, il y en avait 3, il y en avait 4. Hein. Mais il ne faut pas désespérer, c'est avec le temps. Voilà. Et après, c'est de bouche à oreille. Les enfants à l'école qui disent « Mais tu viens pas aux ateliers cuisine, toi ?» Et j'ai souvent des nouvelles familles qui viennent aussi parce qu'il y a des enfants. Il y a le directeur de l'école qui me disait « Moi, je les connais, les ateliers cuisine, parce que j'en entends souvent parler à l'école. »
Elle est très bonne, elle est naturelle et c'est bon pour la santé.
Vous l'avez goûté ? Excellent. On est content de notre réussite.
Aujourd'hui, c'est... 1300 Biocaba distribués auprès de 200 familles dans le cadre de cette action Biocaba accessible, une action unique en France et financée par le Conseil général du Nord à hauteur de 50%.
Jean-Bernard Bayard, ne pensez-vous pas que le développement du bio permettra de réconcilier les habitants de notre région et le monde agricole ?
Non, écoutez, une nouvelle fois, vous faites une opposition avec le monde agricole, avec les consommateurs et avec les sociétés, parce qu'ils ne seraient pas en bio. La réconciliation passe par le bio. Moi, je vais vous dire, j'ai pas honte d'être agriculteur, je suis bien dans ma peau, je pense que j'ai un certain nombre de collègues qui sont exactement dans la même situation. Je pense qu'il y a des clichés qui sont livrés à l'agriculture, à l'égard de l'agriculture, tout à l'heure je le disais. Mais par contre, quand on prend, un certain nombre de sondages Concernant les relations entre l'agriculture et la société, je pense que nos concitoyens sont totalement conscients du jeu et du contexte dans lequel évolue l'agriculture. Et je pense que le lien entre l'agriculteur et le consommateur, le lien entre l'agriculteur et le concitoyen est bon. Par contre, est-ce qu'il faut aller au-delà ? Est-ce qu'il faut encore poursuivre ? Je vous réponds sans aucune ambiguïté, oui.
Malgré vos propos, qu'est-ce que vous faites au sein de la Chambre d'agriculture pour sensibiliser les consommateurs au bio ?
Alors, pour sensibiliser les consommateurs au bio, nous participons à un certain nombre de salons, d'expositions, de relations également avec les collectivités locales, justement pour aller au contact, pour faire passer des messages auprès des consommateurs.
Mais justement, les consommateurs, par exemple, moi j'ai eu des témoignages, cherchent aujourd'hui de la viande bio en Nord-Pas-de-Calais. C'est très compliqué que de trouver de la viande bio. L'élevage, vous y intéressez voilà. Comment, c'est pas une opportunité justement pour venir en aide à l'élevage qui souffre, vous le dites vous-même, en région Nord-Pas-de-Calais, que alors, de favoriser tout ça.
Alors, je sais pas, là aussi, on est sur un sujet sur lequel on ne sera pas forcément d'accord. Le gros problème qui existe dans le bio est le sujet autour de la viande. Pourquoi ? On a un certain nombre de producteurs de vaches laitières qui sont partis sur le bio. D'accord ? Ce qui fait un potentiel de viande bio. Derrière, on a un certain nombre de producteurs de viande bio. Généralement, pas tous, je mesure totalement mes propos, hein, faut pas les stigmatiser. On a un certain nombre de consommateurs bio qui lèvent le pied sur la consommation de viande. Et aujourd'hui, on a de la viande bio qui part dans le circuit de la viande conventionnelle. Donc là, par rapport aux propos que vous venez de me tenir, là on est vraiment en opposition, mais c'est simplement, non pas au regard d'une idée, hein, c'est sur un constat de marché.
Ah bah, je vous invite à prendre contact tout de même avec la cantine de Flers-en-Escaumieux qui, elle, cherche désespérément de la vente bio.
Oui, label. On revient.
Jean-Bernard Bayard, on va se quitter, mais vous, est-ce que vous mangez bio ?
Ça m'arrive de manger bio, mais je ne suis pas quelqu'un qui mange bio régulièrement et qui dit « on va manger bio ». Et je vais vous dire aussi, vous savez, tout à l'heure, vous avez évoqué dans le début de l'émission en disant « le Grenelle ceci, le Grenelle cela ». Le Grenelle, on a indiqué qu'il fallait X% de ceci, X% de cela. Résultat des courses. On a un certain nombre de collectivités qui font venir effectivement du bio. Et du bio qui vient de Chine, du bio qui vient des Indes, je ne vous parle pas, y compris de quelques pays très précis de l'Europe. Moi, je suis totalement pour les circuits courts. Et là aussi, j'ai une relation de confiance parce que je sais de où vient le produit. Voilà, je voulais simplement soulever ce point parce que c'est un point très important. Et tout à l'heure... autre exemple que je voulais illustrer. Vous avez évoqué la ferme des 1000 vaches. Je ne vais pas vous dire que je suis pour un schéma de ce style, parce qu'on remet en cause tout un schéma concernant l'agriculture. Je voulais simplement vous signaler qu'en Suède, nous avons des exploitations bio à 1350 bêtes. Ils sont en production bio exactement sur le même schéma que celui que Michel Ramry a décliné. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un schéma autour de la méthanisation. Ils ont tout intégré. Et là, ils sont allés au-delà parce qu'ils font de la transformation au niveau local sur cette exploitation en Suède. Voilà. Donc, je sais pas dire là c'est bien, là c'est mal. Moi, je pense qu'il faut regarder, s'inspirer, prendre conscience des différentes problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Et sur l'agriculture bio dans notre région, oui. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure au début de mes propos. La production bio a été abordée sur un mauvais plan en tant qu'un lien direct entre le producteur et le consommateur. Et je crois qu'on peut aller au-delà. Et l'exemple du lait doit nous illustrer. Tout à l'heure, vous avez eu des témoignages concernant le désherbage des céréales d'un producteur. Je crois que c'était... Pardon, je crois que c'était Monsieur Lemoine.
Monsieur Lemoine, oui.
Et en la matière, oui, il y a une demande sur les céréales. Mais Ça demande une technicité très forte et se garantir également au niveau des marchés par une politique contractuelle.
Merci, Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture, Nord-Pas-de-Calais.
C'était Parlons Franf comme premier invité Jean-Bernard Bayard, président de la Chambre d'Agriculture du Nord-Pas-de-Calais, interviewé par Jérôme Bailly et Hervé Dujardin de Radio Scarpe Sensée, Jean-Philippe Planque de Radio Plus,
Marjolaine Labelle de Radio Boumangue,
à la coordination Bruno Reguet. Et rendez-vous début novembre pour le second numéro de Parlons Franf, à quelques jours du 11 novembre et de l'inauguration d'un anneau de mémoire à Notre-Dame de Lorette par François Hollande. Et une dizaine de chefs d'État, on parlera des commémorations de la Grande Guerre avec son chef d'orchestre en région, l'historien Yves Lemanneur, responsable de la mission centenaire. Merci, au revoir.
Merci à vous.
Stage.